University of Cambridge International Examinations. Pre-U French Principal Course 9779, Paper 2, May-June 2010. Part 2, Listening Comprehension. You are advised to spend 1 hour on this section. You may listen to the passages as many times as you wish on your individual listening equipment.
Texte à écouter 1. Interview avec Alain Robert.
Alain, tu es un grimpeur exceptionnel. Ta spécialité, c'est l'escalade des plus hauts gratte-ciel du monde en solo. Comment as-tu commencé?
Eh bien, enfant, j'adorais les histoires d'alpinistes. Je n'avais que 8 ans quand j'ai commencé à faire de l'escalade dans les Alpes avec mon père. Et puis un jour, je devais avoir environ 12 ans. J'avais oublié les clés de mon appartement. Donc, pour rentrer chez moi, j'ai escaladé les 8 étages de mon immeuble. Quand je suis arrivé sur mon balcon, j'étais très fier de moi. Là, j'ai compris que j'aimais vraiment ça. En 1980, une entreprise qui réalise des films publicitaires sur les sports extrêmes cherchait quelqu'un pour escalader des bâtiments. Ils m'ont embauché. C'est là que ma carrière de grimpeur de gratte-ciel a débuté, même si ce genre d'activité n'était pas à la mode à cette époque.
En quoi consiste ta préparation ?
Je m'entraîne beaucoup physiquement. Je fais quotidiennement des exercices très poussés pour maintenir ma forme physique. Mais ma préparation mentale est tout aussi importante. Il faut avant tout connaître par cœur la voie que l'on va faire. Avant de faire l'ascension, je l'ai déjà faite plusieurs fois mentalement. Mon point fort, c'est d'arriver à repousser les limites de ma peur. Ce qui m'intéresse, c'est le contrôle de soi.
Et est-ce que tu as toujours été en contrôle de toi ?
Pas toujours, malheureusement. J'ai eu de très graves accidents. 15 jours de coma, de multiples fractures. Les médecins m'avaient dit que je ne grimperais plus jamais. Mais après mes accidents, c'est tout seul que je me suis rééduqué physiquement et mentalement. Je ne peux pas vivre sans grimper. Il fallait que j'arrive à nouveau à grimper.
Qu'est-ce qui te motive dans l'escalade de bâtiments ? Et qu'est-ce que ça t'apporte ?
Sur un gratte-ciel, la verticale est absolue, ce qui n'est pas le cas en montagne. C'est là qu'est tout le challenge. En grimpant des gratte-ciels, je vois toujours les voitures. C'est ce qui me rappelle la hauteur vertigineuse à laquelle je me trouve. Quand j'étais petit, j'étais peureux. J'avais peur du vide, et pourtant j'étais attiré par le danger. Eh bien, j'ai réussi à maîtriser ma peur. J'ai aussi réussi à gagner le respect des autres. Alors oui, quoi qu'il m'arrive, c'est super. J'ai réalisé mon rêve. Texte à écouter 2. Interview avec Florence, responsable de l'association Resto du Cœur. Florence, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les Restos du Cœur ?
Comme vous le savez, c'est Coluche, un comique très aimé des Français, qui a eu l'idée il y a 20 ans d'ouvrir des restos. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il était révolté de voir des gens vivre dans la rue et qui en plus avaient faim. Et c'est pour eux qu'il a ouvert ses restaurants. Alors il a utilisé sa popularité pour convaincre les Français d'envoyer de l'argent pour son association, les Restos du Cœur. Et ça a marché. Dès la première année, les restos ont servi 8,5 millions de repas. Aujourd'hui, c'est 85 millions de repas que nous servons, donc 10 fois plus qu'il y a 20 ans.
Comment expliquez-vous une telle augmentation ?
Parce que la situation est devenue de plus en plus grave. 4 millions de personnes vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, avec presque 100 000 personnes qui vivent dans la rue. Les Restos du Cœur ont toujours servi des jeunes, des personnes âgées et des chômeurs. Mais maintenant, et ça c'est nouveau, les gens qui font appel aux restos sont aussi des travailleurs pauvres qui ne peuvent pas payer leur loyer.
On dit que certains profitent du système, bien qu'ils aient un travail. Et vous, Florence, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça me met vraiment vraiment en colère. C'est scandaleux de lire des choses pareilles dans les médias. Quand vous pensez que des gens qui ont un job n'ont même pas assez pour s'en sortir et qu'ils sont obligés d'avoir recours à des associations caritatives comme les restos, croyez-moi, ceux qui viennent au resto ne sont pas des gens qui profitent d'un système, mais plutôt ceux qui n'ont pas d'autres possibilités pour s'en sortir.
Texte à écouter 3. Voyages écologiques? Avons-nous trouvé des solutions pour rendre nos transports plus écologiques?
On a comparé les niveaux de pollution pour les deux moyens de transport les plus utilisés. Sur le trajet Toulouse-Paris, alors que pour une personne, le train produit 5 kg de CO2, le même trajet en avion en produit 90 kg. Pour rendre les voyages moins polluants, la solution choisie actuellement, c'est de compenser les quantités de CO2 produites par le voyage en demandant aux voyageurs de payer une somme d'argent. Celle-ci sera utilisée pour financer des projets environnementaux.
Mais vous êtes contre ces mesures. Pourquoi ?
Parce que les voyageurs croient que cette somme d'argent va permettre de compenser les dégâts faits à l'environnement. Ils n'hésitent donc plus à prendre l'avion aussi souvent qu'ils en ont envie, car cette compensation qu'ils ont payée leur donne bonne conscience. Mais c'est faux. D'abord, parce que ces compensations sont minimes. Prenez le vol Paris-Polynésie. On paie 21,49 € de compensation. Dérisoire. Ensuite, parce que pour résoudre des problèmes aussi graves que les changements climatiques, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, en matière de transport, il n'y a qu'une solution, réduire nos voyages. Oui, il faut carrément changer nos habitudes de vie, et ça, c'est plus dur à accepter. Ces opérations de compensation carbone sont, selon moi, dangereuses, car elles ne sont finalement qu'une validation des émissions.
This is the end of the recorded material.